la sphère neuro. Célia Morès sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès sur Nutri Radio, ça fait plaisir comme chaque vendredi. Histoire de se triturer les ménages. Bah oui, on comprend bien un petit peu le fonctionnement du cerveau, les neurones en action pour un tas d'applications pratico-pratiques. Et donc, merci à vous de nous suivre, par exemple en podcast, sur les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ces émissions, à commenter, à partager aussi. Ne gardez pas tous ces savoirs prodigués et donnés par Célia pour vous. Soyez généreux aussi, partagez, ça nous aide aussi. Bon, Célia Morès, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment ça va ?
Ça va plutôt pas trop mal, ça va. Écoutez, fallait dire, il fait beau à Paris en ce moment, donc c'est quand même très agréable. Et comme c'est rare en cette saison, ça mérite d'être relevé, on va dire.
Oui, allez, on je sais pas si les gens qui nous écoutent en podcast, si ça se trouve, ils vont vous écouter. Il pleut à verse, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais bon, le soleil, rien qu'en parler déjà dans la tête, c'est bien. Ça nous aide à le visualiser. On médite. Est-ce que vous méditez, vous, Célia ?
Je le conseille souvent, notamment la méditation de pleine conscience, mais j'avoue que je ne pratique pas forcément.
Il faut s'y mettre. Ne serait-ce que 5 minutes par jour. Je veux dire que j'avais laissé tomber, j'ai repris, ça fait énormément de bien. Petit à petit, on augmente le temps, même si on est dans une espèce d'obligation de production, d'être dans une certaine productivité. Du coup, c'est dur de se poser, mais ça fait du bien. Et on va parler maintenant, sans transition, des exergames. Les exergames, qu'est-ce que c'est, Célia ?
Alors, les exergames, comme son nom l'indique, ce sont finalement des jeux vidéo qui vont allier exercice, dans le terme lui-même, et game, jeu en anglais. Alors, ces jeux vidéo sont un petit peu spéciaux parce que contrairement aux jeux vidéo classiques où on a des joysticks, des manettes, etc., la manette, ça va être notre propre corps. C'est-à-dire qu'il va s'agir de faire quoi ? De faire participer le corps au stimulus généré par l'ordinateur. Et c'est très bénéfique parce que ça va allier tâches motrices puisqu'on fait bouger son corps. Bouge ton corps, mais en plus, ça va allier des tâches cognitives. Alors, il y a différents types de jeux qui existent. On a tous connu, il y a quelques années, on va citer les deux concurrents, mais c'est pareil, c'est les jeux qu'on a connus et qu'on a achetés pour certains, en tous les cas, qui consomment et qui jouent aux jeux vidéo, les PlayStation avec iToys, le tapis de danse ou la Nintendo avec la Wii.
Ah oui, vous êtes une gameuse, vous, en fait.
Pas vraiment, mais on va y venir parce que justement, l'industrie qui s'est emparée de ce concept d'exergame, en faisant finalement travailler le corps des participants, des personnes qui jouaient à ces jeux-là, plus des tâches cognitives, ont tout compris. Exemple, iToys, c'est quoi ? Il y a un jeu sur iToys, c'est la silhouette du joueur va être filmée par une webcam et va être intégrée au programme du jeu en temps réel. Et le joueur va par exemple devoir faire quoi ? Essayer de percer des ballons en bougeant ses bras. Donc, on bouge le corps et parfois il peut y avoir des tâches cognitives. Je me souviens dans la recherche, il y a quelques années, quand je faisais ma thèse, il y avait une de mes collègues qui travaillait justement avec la Wii sur les mouvements du corps et d'autres types de problèmes au niveau de la thérapeutique des patients qui pouvaient être hospitalisés en psychiatrie. Et c'était de faire quoi ? On avait testé justement en fait le jeu pour voir si le protocole allait bien fonctionner, donc on était un petit peu cobaye. On avait utilisé la Wii et avec la Wii, il fallait tout simplement laver des carreaux de vitre, alors ça paraît anodin. Sauf que en quoi il y avait une tâche cognitive ? Tout simplement qu'à certains moments, en fait, il fallait penser inversé. C'est-à-dire que si on levait le bras droit pour pensant laver dans le carré droit de l'écran, on se retrouvait en bas. Donc en fait, il fallait à chaque fois penser à inverser, donc traiter une information, travailler sur l'information, maintenir cette information en mémoire pour pouvoir résoudre la tâche. Donc double tâche, à la fois cognitive et à la fois effectivement physique. Pareil pour les tapis de danse, il y a eu aussi cela qui permettait aux joueurs de savoir s'il était en rythme, pas en rythme, s'il faisait les tâches demandées. Donc, addition de l'exercice physique et de la stimulation cognitive. Et il va y avoir au niveau de la stimulation physique, différents types de stimulation physique. Ça peut être de la force, ça peut être de la souplesse, ça peut être de l'équilibre, ça peut être de l'endurance. Et la cognition, tout simplement aussi, pourquoi pas, toucher un écran pour toucher une cible et inhiber d'autres cibles qui seraient des distracteurs. Ça, c'est effectivement les jeux qui sont, on va dire, basiques et que tout un chacun peut avoir chez soi.
D'accord. Ok, très bien, pardon. Allez-y, je vais finir, revanche, après je vous poserai les questions après.
Mais en revanche, il existe maintenant, depuis quelques années, mais là on est plutôt dans le monde de la recherche ou dans le monde du collaboratif, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui existent, des endroits où on peut aller jouer à ce type de jeu, ce sont les murs immersifs et interactifs. Et là, ça va permettre... tout simplement, par exemple, d'avoir un ballon en physique, un vrai ballon, et de le lancer sur le mur pour le mettre dans un panier virtuel.
Ah oui, il faut quand même. Mais le ballon, il rebondit. Alors, si on a l'impression qu'on le met dans le panier, mais que le ballon rebondit et revient dans notre tête, du coup, on est vraiment blessé. Et on croit qu'on a vu un panier.
J'y ai pas pensé à ça. Mais c'est vrai que ça pourrait être le cas. Mais tout simplement aussi lorsqu'on est en réel, quand on met un ballon dans un panier, peut-être que si on le met trop fort, après on peut se le reprendre sur la tête.
Ou non, quelqu'un qui va nous faire. Il y a des pratiques aussi de golf et tout, comme ça, il me semble que c'est des techniques qui existent depuis longtemps. Mais donc ça veut dire qu'on peut. On va d'abord marquer une petite. Non, pas maintenant. On me dit non dans l'oreille. Non, on va voir les bienfaits dans un instant. Mais parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses à travers ces outils, ces exergames. C'est aussi des exergames formation.
Ah, totalement, oui. C'est vrai qu'il y a aussi des exergames formation. Là, c'est vrai que je me suis un petit peu concentrée sur l'exergame sport. Alors, pourquoi? Parce qu'on connaît tous les bienfaits du sport. On ne va pas y revenir, les bienfaits du sport réel. Mais l'avantage des exergames, c'est de faire augmenter, on le verra, le plaisir, et notamment chez nos aînés. Et ça va être très très important. J'ai vu des vidéos sur Internet où ils étaient en train de s'amuser, mais vraiment, on aurait dit comme des enfants. En fait, c'était beau à voir sur la vidéo, comme des enfants, eux qui n'avaient pas forcément envie de faire du sport habituellement. Donc, ça va être de faire bénéficier à la fois des bienfaits du sport et bénéficier de la stimulation cognitive pour faire travailler son cerveau.
Mais en termes, oui, d'accord, là on est vraiment sur le travail du cerveau parce que j'imagine qu'en termes de calories, dépenses énergétiques, c'est pas la même chose quand même.
Alors pour les exergames, probablement un petit peu parce qu'on n'est pas dans l'e-sport. L'e-sport, c'est pratiquement finalement que du cognitif, c'est-à-dire que les personnes en e-sport, elles ont leur manette, leur ordinateur, elles sont assises sur un siège, typiquement ça va être ça, la majorité des cas. Là non, les personnes bougent vraiment, elles font vraiment du sport, elles lancent le ballon, elles peuvent dribbler, essayer de passer à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose où on se dépense, voire parfois où on peut transpirer. Pour avoir testé la Wii dans certaines conditions, ça a été vraiment très drôle parce qu'on presque on a transpiré, les mouvements, je les ai réellement réalisés. Donc, au niveau des calories, j'allais dire brûlées, du sport, enfin des bienfaits du sport physique, on a exactement les mêmes bienfaits. On bouge vraiment, puisque c'est notre corps la manette. On n'a pas de manette, on n'a pas de joystick, c'est notre corps. On bouge notre corps pour réaliser une tâche. On touche l'écran, on tape le ballon, on lance le ballon, comme on lancerait le ballon sur un vrai panier, sauf que le panier, n'est que virtuel.
On marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission avec Célia Morès, c'est sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio, on parle des exergames aujourd'hui. Moi je paierais cher pour vous voir avec une Wii en train de faire du sport comme ça. Moi je vous imagine pas du tout en gameuse. C'est marrant, peut-être. Comme quoi finalement. On se connaît.
Non, vous aviez raison. Vous avez raison, je suis pas vraiment une gameuse, mais pour avoir participé à quelques jeux comme ça, c'est vrai que c'est très très agréable et c'est assez ludique et c'est assez quand même plaisant. Même si on n'est pas des gamers avertis, on va dire.
Bon, c'est plus facile de se mettre à ça que se mettre au sport. Et si ça peut avoir les mêmes effets, tant mieux. Et alors justement, en parlant des bienfaits, quels sont les bienfaits prouvés de ces exergames?
Alors déjà, lutter contre la sédentarité. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec les années qui passent, on est de plus en plus sédentaire, on bouge de moins en moins. Il y a eu les années Covid qui l'ont aussi prouvé, on n'a pas pu, pour certains, aller faire du sport. Les personnes âgées qui sont sédentaires, donc ça va permettre aussi de lutter contre la sédentarité et de proposer autre chose à des personnes qui n'auraient pas eu envie de faire du sport, Pourquoi? Parce que lorsqu'on les met en exergame, elles relatent ensuite, au niveau de leur expérience, quand on leur demande leur ressenti, une augmentation du plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré que les personnes avaient noté 75% de plaisir en plus par rapport au sport réel. Donc, on lutte contre la sédentarité. On va lutter contre l'isolement parce que généralement, ça se joue à plusieurs, soit en équipe, il faut des adversaires, donc on ne le fait pas forcément seul chez soi. Donc là aussi, ça permet de lutter contre parfois l'isolement des personnes âgées, notamment même dans les EHPAD, parce qu'il faut le savoir, on y reviendra probablement la semaine prochaine avec des études qui ont été menées, mais ça a été réalisé aussi chez des personnes atteintes d'Alzheimer, hospitalisées au long cours, et elles ont montré un réel plaisir à participer à ce type de jeu. Et en les sortant de leur isolement. En plus, ça permet de faire quoi? De lutter contre le déclin cognitif, d'améliorer les performances mentales, intellectuelles. Donc, ça va être la vitesse de réaction, c'est-à-dire qu'on est plus rapide pour répondre à une sollicitation, la possibilité d'être plus efficace lorsqu'on est en situation de double tâche, c'est-à-dire faire deux tâches en même temps, en inhibant une par rapport à une autre. Ça va être aussi de diminuer le côté anxieux, un effet anxiolytique, va-t-on dire, de bien-être, de diminution du stress. En plus, on va avoir un feedback au niveau de la position de son corps, donc ça va être tout utile pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, je pense notamment aux personnes atteintes de Parkinson. Donc, il va y avoir aussi donc facilité de la prise de décision, flexibilité, meilleure inhibition, donc on est plus flexible pour changer de stratégie, pour inhiber la stratégie peut-être inadéquate dans laquelle finalement on s'était installé. Et ça va être aussi rapidité de décodage et du traitement de l'information. Alors pourquoi? On sait que le sport va libérer notamment des facteurs de croissance qui vont permettre au niveau de l'hippocampe la naissance de nouveaux neurones et l'établissement de connexions synaptiques. Donc, croissance de nouveaux neurones, naissance de nouveaux neurones, neurogénèse qui augmente, donc de nouveaux neurones se créent et des connexions synaptiques, ce qui est indispensable pour que le cerveau fonctionne bien, se créent entre elles, c'est-à-dire que le dialogue entre les neurones s'effectue. Mais ce qui se passe lorsqu'on fait un exergame, en sollicitant à la fois le physique et le mental, le cognitif, c'est que la tâche cognitive va permettre de renforcer ces connexions synaptiques. C'est-à-dire que non seulement ça va se mettre en place, mais en plus on va les renforcer, les durcir, ce qui permet évidemment d'observer tous les bienfaits que l'on va observer à la fois au niveau du corps, du physique, mais aussi de la cognition. D'où l'intérêt de l'utiliser chez les personnes jeunes, chez les personnes âgées, chez les personnes atteintes de certains types de pathologies et même chez les personnes atteintes de pathologies, on va dire, de ce qui touche un petit peu à la santé mentale, qui est une grande cause actuelle, et notamment tout ce qui va être anxiété, parce que ça va avoir réellement de réels bienfaits à tous ces niveaux-là. Et notamment, pourquoi est-ce que ça va diminuer le stress? En étant concentré sur une tâche cognitive et sur les mouvements que la personne doit faire, elle ne va plus penser aux pensées négatives, en fait. Ça va l'extraire de ces pensées négatives qu'elle ruminait sans cesse, et les conséquences, ça va être un bienfait au niveau de sa santé mentale. Et on sait qu'il y a des liens entre la santé mentale et la santé cognitive.
Eh bien oui, alors quel équipement on a besoin pour, parce qu'on parle de quoi? On parle de choses qui coûtent très cher, très 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 cher, très 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 cher.
Alors non, justement, il y a tout ce qu'on peut faire. Alors chez soi, c'est typiquement ce qui existe au niveau de l'industrie du jeu. Ça va être la Wii, la PlayStation avec Ice Toys et le tapis de danse. Tous les jeux que l'on peut, qui sont relativement abordables et que tout un chacun peut avoir chez soi. Ce qui est plus compliqué, évidemment, c'est les murs immersifs et interactifs parce que là, c'est pas possible de l'avoir chez soi. Et là, c'est soit les laboratoires de recherche parce que c'est utilisé en recherche, soit dans le domaine du collectif. Donc, il existe des centres, justement, où on peut aller jouer. Comme il y a des centres, on peut faire
Escape game.
Et voilà, escape game, je trouvais plus le terme, escape game, il y a des centres où on peut aller jouer aux exergames justement pour profiter des vertus avec ce mur immersif. Enfin, c'est un grand mur, en fait, c'est une projection sur un mur, tout simplement. Il n'y a pas d'écran d'ordinateur là, parce que si on lance un ballon sur un écran d'ordinateur, je ne donne pas cher de l'écran. Mais là, non, c'est un mur, on lance sur le mur, on touche le mur, etc. Donc, c'est vraiment des séances de sport, mais liées travailler finalement avec ce domaine virtuel en étant connecté à ce mur de manière virtuelle, en voyant peut-être son corps, en tous les cas en ayant un feedback sur les mouvements, en tous les cas sur les conséquences des mouvements, puisque si on met le panier et qu'on a réussi à le mettre, ben on est relativement content.
Moi, je trouve ça génial parce que finalement, ça réhabilite aussi dans la tête de tout le monde le jeu vidéo, il y a le jeu tout court. Il faut jouer, pas seulement travailler ou être spectateur des réseaux sociaux. On doit participer, on doit jouer. Vous savez, on appelait ça à mon époque, dans les années 20, Luna Park.
Oui.
Il y avait des outre-mer, on allait dans les Luna Park, c'est des salles de jeux vidéo comme ça, et ça revient d'ailleurs. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle.
J'ai connu.
Vous avez connu un Luna Park, ça vous parle, le mot ?
Ça me parle totalement, mais vous croyez pas si bien dire. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, j'ai prévu, donc pas la semaine prochaine, mais peut-être celle d'après, etc., de faire une émission justement dédiée aux jeux vidéo, parce que souvent, malheureusement, c'est mal vu, c'est décrié, tout le monde en a peur en disant « Oh mon Dieu, il faut pas que les enfants jouent ou les jeunes jouent aux jeux vidéo ». Non, le problème, c'est pas le jeu vidéo, le problème, c'est peut-être le nombre d'heures passées devant, c'est comme tout, hein, il y a une question de quantité. Mais au contraire, parce qu'il y a eu une étude justement, puisque vous en parlez, qui ont montré la différence entre les joueurs, ceux qui pratiquaient, qui jouaient à certains jeux vidéo, et ceux qui ne jouaient pas. Et ben, les joueurs avaient la vitesse de prise de décision qui était augmentée, des capacités à traiter l'information et à réaliser des tâches de manière simultanée qui s'étaient améliorées, une meilleure flexibilité, de meilleures facultés attentionnelles, une meilleure mémoire visuelle et un meilleur contrôle émotionnel. Pourquoi ? Ben parce que quand ils jouent, et même si c'est des jeux où il faut faire attention et, j'allais dire, tirer sur quelque chose ou éclater un ballon, etc., il faut voir d'où vient le ballon, se repérer, être attentif, parce que si on n'est pas attentif, on loupe le ballon et on se fait peut-être soi-même, on va perdre une vie. Donc il y a toute une méthodologie comme ça qui fait que ça entraîne les facultés cognitives. Le danger n'est pas leur utilisation. Le danger, c'est de les utiliser à mauvais escient ou qu'un jeune, alors c'est plutôt les jeunes qui sont touchés, mais il n'y a pas que les jeunes, c'est que quelqu'un se coupe du monde pour ne faire que jouer aux jeux vidéo ou ne dort plus et passe sa soirée toute la nuit à jouer jeux vidéo en allant ensuite soit à l'école, soit travailler, où là il y a une baisse des performances. Mais sinon, ça va avoir des réels bienfaits. Donc ça va être justement d'incorporer ces jeux en les utilisant de manière, j'allais dire, pédagogique, et non pas en avoir peur. Faut arrêter justement ce côté non jamais, il faut interdire les jeux vidéo au moins deux. Non, c'est peut-être leur apprendre à les utiliser à bon escient et peut-être créer des jeux de plus en plus serious game, on va dire, qui pourraient être intelligents et aider justement à développer les facultés cognitives de manière un peu plus ludique que cela ne le serait juste scolairement avec juste un prof en face. C'est une autre méthode de travailler, mais qui va avoir un impact dans la vie de tous les jours et sur les apprentissages.
De toute façon, avec l'IA par exemple, les profs ils sont complètement largués, hein. Je peux dire que les élèves, il n'y en a plus un qui s'intéresse véritablement, on se demande à quoi ça sert, etc. Peut-être que des classes où on encadre l'utilisation de ces exergames ou des jeux ludiques, mais qui en même temps sont utiles pour notre santé mentale et puis aussi pour la neurogénèse, par exemple, eh bien, je sais pas, moi, ça peut être intéressant, ça, de motiver les enfants pour aller en cours.
Ah, ça peut être intéressant et je pense que réellement ça va avoir un impact. Moi je me souviens, il y a quelques années, j'étais allée à une sorte de colloque congrès justement où il y avait tout ce qui était nouvelles technologies, un petit peu IA, jeux vidéo, et j'avais rencontré une personne qui avait créé donc une boîte pour justement faire créer à des jeunes, donc plutôt des lycéens, hein, mais des collégiens aussi, mais plutôt collégiens ou lycéens, primaires, ils étaient peut-être un peu trop jeunes, un jeu vidéo. Alors là, on sort un peu de l'exergame, mais c'était créer un jeu vidéo. Et en quoi c'était bénéfique, c'est que ça se faisait dans le milieu scolaire, c'est-à-dire qu'on apprenait aux jeunes que tout ce qu'ils apprennent à l'école, ils allaient en avoir besoin pour créer leur propre jeu vidéo. Et là, tous les profs s'y mettaient. Pourquoi ? Bah, pour créer le jeu vidéo, il fallait coder. Qui dit codage, dit connaissances informatiques et mathématiques. Le prof de maths, go, s'y mettez lui aussi. Il faut créer un scénario, il faut avoir de l'imagination. Le prof de français, il faut créer une histoire. Donc là, on est dans le français. Peut-être ça peut aller aussi au niveau de quelque chose d'historique. Donc le prof d'histoire pouvait s'y mettre, etc., etc. Ce qui fait que finalement, les jeunes se rendaient compte que de manière ludique, pour jouer à leur jeu vidéo, pour créer quelque chose, même si c'était leur passion, il fallait avoir les connaissances qu'on leur apprenait, les connaissances de base qu'on leur apprenait au niveau scolaire, les maths, le français, l'histoire, etc., etc., parce qu'ils en avaient besoin pour justement créer leurs jeux vidéo. Et là, ben, je pense qu'ils progressaient, ça leur permettait de toucher du doigt l'importance qu'avaient les matières et de le faire de manière un peu plus ludique qu'ils ne l'auraient fait que juste si on leur apprendre des mathématiques, du codage devant un écran d'ordinateur sans qu'il y ait une association et un lien justement avec ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est important de remettre du lien, d'expliquer à quoi ça sert ce qu'on apprend, comment est-ce qu'après on peut le mettre en application dans la vie de tous les jours et notamment dans de futurs métiers qui pourraient les intéresser ou même au niveau de leur jeu, comment peut-être augmenter leur performance dans leurs jeux vidéo préférés aussi, pourquoi pas.
Mais oui, remettre le sens au milieu de tout ça. Bah, écoutez, merci beaucoup Célia, c'était encore une fois très intéressant. Et finalement, sur des sujets comme ça, il y a beaucoup à dire. Moi, je repensais d'un seul coup, je repensais à tous les jeux de mon enfance, comme le yo-yo, je sais pas. Bon, il y a des choses peut-être à reprendre, à refaire. Est-ce que le yo-yo, c'est considéré comme un hexagame? Non, pas du tout.
C'est pas considéré comme un exergame, mais ça pouvait justement augmenter la dextérité des doigts. Mais dans les jeux qui sont, j'allais dire, de notre enfance, en tous les cas de la mienne, de ma jeunesse, Tetris. Je sais pas si on se souvient de Tetris, Pac-Man, etc.
Mais ça nous a aidé.
Eh ben, ça nous a aidé à être rapide, à augmenter la motricité fine au niveau des doigts, puisqu'il fallait mettre les cubes,
il fallait être rapide, les formes géométriques et tout, c'était magnifique ça.
C'est ça, hein, de plus en plus. Et quand on jouait au départ, on était un peu nul. Enfin, moi, pour ma part, j'étais pas très douée. Et au fur et à mesure, j'ai pu acquérir une dextérité, et ce qui fait que c'était impressionnant. Et c'est ça aussi. Ça veut dire plus de dextérité dans les doigts, plus de motricité fine. Donc, on acquiert des compétences et c'est ça, il ne faut pas l'oublier du tout, quoi.
Merci Célia, on se retrouve la semaine prochaine.
Totalement, avec grand plaisir Fabrice.
Et cette émission, elle est dispo en podcast maintenant, tout de suite. Si vous venez d'arriver, on va vous la mettre à disposition pour que vous puissiez la réécouter dans son intégralité sur Nutri Radio, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Célia.
Au revoir Fabrice.
Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio.